Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de nos podcasts post-mortem, nos autopsies, des éliminés des playoffs NBA, podcasts durant lesquels on revient sur la campagne de playoffs de la franchise concernée et aussi on se projette sur l'intersaison de cette franchise aujourd'hui. Gros dossier puisqu'on va parler des Los Angeles Lakers éliminés 4-1 par les Denver Nuggets. Pour ce faire, j'ai avec moi celui qui avait fait la preview des Lakers et qui avait eu le nez fin, notamment en parlant de l'influence de D'Angelo Russell sur le futur échec des Lakers, c'est Madiane. Comment ça va, Madiane ?
Eh ben ça va, effectivement, bonne prédiction. Tu ne pouvais pas gagner avec un D'Angelo Russell à ce niveau. Ça s'est révélé très fortement vrai.
Eh bien, Madiane, sans plus tarder, on va enchaîner parce que on va être encore complètement transparent. Il existe une première version de ce podcast. Qui a été, alors c'est vraiment notre jour de chance, notre site d'enregistrement a eu un énorme problème à l'échelle mondiale pendant qu'on enregistrait ce podcast-là très précisément, ce qui fait qu'il est irrécupérable. Donc Madiane et moi-même, nous allons faire une deuxième version. Donc comme d'habitude dans ce genre de cas, nous allons faire référence à la première parfois, parce que Madiane, on n'a vraiment pas de chance, on enregistre quelques minutes après la fin du Denver-Minnesota match 2. Et on va pas dire qu'on avait prévu certaines choses, mais dans notre rétrospective du premier tour des Lakers, on avait un peu parlé des Nuggets moins fringants que prévu. Donc, on a un peu la rage que ça ne soit pas sorti parce qu'on avait annoncé certains trucs.
On était pas mal en se disant que d'être autant de fois mené face à ces Lakers, c'était peut-être un signe de quelque chose de plus profond. Et je crois qu'il y a des jeunes loups qui sont en train de le montrer.
Exactement. Avant de commencer et de revenir sur cette série, comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur les plateformes de podcast et aussi sur Twitter ainsi que sur YouTube, alors qu'il y a une construction qui démarre dehors. Je ne sais pas ce qui se passe, vraisemblablement. C'est vraiment un podcast et les Lakers, ça ne veut pas sortir. Hein. Je pense, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, enchaînons directement. Madiane, Lakers Nuggets, victoire des Nuggets au premier tour, 4-1, je l'ai dit. Alors, tout simplement, Madiane, question. Est-ce que c'est une mauvaise série pour les Lakers? On en avait déjà parlé. Est-ce que c'est pas un 4-1 qui est encourageant? Je n'aime pas ce terme de défaite encourageante, mais est-ce qu'on s'en approche pas un petit peu là?
C'est un beau 4-1. Disons que si avant la série, au vu de ce qui s'était passé l'an dernier, au vu de la saison régulière, on m'avait dit bon, les Lakers, ils vont sortir 4-1, mais ils vont mener la majeure partie du temps de la série. Oui. Pour moi, c'est pas le résultat le plus positif. Le résultat le plus positif, c'est Jokic se pète et tu prends la série. C'est ça le meilleur outcome, c'était grosse blessure côté Nuggets et tu prends la série. Juste derrière, c'est tu sors parce que ils sont à 100%. Il y a une différence de niveau, mais tu sors avec les honneurs clairement.
Ouais, je résumerai dans mes notes que les Lakers sont tombés contre plus fort qu'eux, tu l'as dit. Ils mènent, la stat est beaucoup sortie, ils mènent à chaque fin de première mi-temps. Ils sont en termes de minutes devant les Nuggets et ils sont un peu tombés sur ce qui leur pose problème actuellement. C'est que je ne suis plus sûr personnellement que LeBron James soit en capacité d'être un joueur DH10 sur 48 minutes d'un match de playoff à haute intensité. En fait, si les Lakers ont eu beaucoup de mal dans les fins de match, c'est aussi parce que LeBron a eu parfois beaucoup de mal en fin de match et que le basket qui était proposé dans certaines premières mi-temps par les Lakers, je parle de beaucoup de basket de transition, beaucoup d'accélération, beaucoup d'agressivité, il n'arrivait pas à le tenir sur toute la durée des 48 minutes d'un match de playoff, là où les Nuggets, à l'inverse, étaient dans un espèce de contrôle total des moments clutch. Sur la série en tant qu'elle-même, en tant que telle, les Lakers ont été plutôt bons. Alors, on avait une take dans la première version, comme quoi, moi, j'affirmais que les Lakers étaient une des meilleures équipes du premier tour qui était mal tombée. Je vous avoue qu'après les deux premiers matchs de la série Wolves-Nuggets, je sais plus à quel point je suis si sûr de ça, hein. Ça, on va dire que la suite des playoffs nous amène à relativiser certaines de nos opinions. En tout cas, ces Lakers-là, oui. Il y a encore eu des limites au coaching de Darwin Ham qui a fait certaines rotations un peu lunaires. Mais à l'inverse, je trouve que ses choix tactiques sur la défense de Jokic avec Anthony Davis, etc., étaient plutôt bons. Donc les Lakers ont fait une bonne série, en fait. C'est un 4-1 qui aurait pu être un 4-2 sans trop de problèmes. Ils sont sortis les armes à la main, tout simplement.
Exactement. Ils sortent les armes à la main, ils proposent quelque chose d'intéressant. Et moi, cette tech, je la remettrai pas tant en question parce qu'il y a quand même des équipes qui sont actuellement demi de conférence. Je vais pas citer le nom de notamment une équipe auquel je pense, qui sont pas au niveau de ces Lakers. Clairement pas.
Indiana.
S'il y avait... Pas que. s'il y avait des séries fictives Est-Ouest mixées... Pas sûr que les Lakers sortent au premier tour, clairement. Voilà, ces Lakers restent une bonne équipe. Une bonne équipe qui s'est retrouvée limitée, finalement, et court sur certaines choses, notamment le fait que, on en parlait dans le quatrième quart-temps, c'est le moment, normalement, pour qu'un D'Angelo Russell prenne les choses en main, parce que on le sait que LeBron, et c'est là où la théorie des Lakers, c'est un peu hors armure, mais on le savait, c'est que tu as le deuxième et le troisième meilleur joueur de la série et de loin, mais par contre, tu n'as pas le quatrième, tu n'as pas le cinquième, tu n'as sans doute pas le sixième. Et en fait, la théorie s'est retrouvée très courte parce que D'Angelo Russell était censé aussi prendre le relais à certains moments, notamment dans ces fins de match où bah, tu as besoin de quelqu'un qui soit capable d'aller chercher ses gros tirs pour rester à flot. Et bah, c'est Jamal Murray qui les a mis malheureusement dans cette période-là pour les Lakers. Et avec un D'Angelo Russell juste au niveau de sa saison régulière en termes de réussite au tir et de shot making, la série, elle est entièrement différente. Et finalement, dans les matchs où il est bon, bah, il y a notamment le match qu'ils prennent. Donc, c'est, pour moi, il y a eu un très grand Anthony Davis, il y a eu un très bon LeBron James. Mais en fait, le problème de cette équipe des Lakers, c'est que pour gagner, notamment face aux Nuggets, il fallait trois facteurs important, et avec juste deux, tu ne peux pas gagner. Là où, côté Nuggets, tu pouvais avoir un Murray pas ultra bon, ça passait, un Gordon un peu discret, ça passait quand même. Ils avaient de la marge, et c'est là où cette série, c'est un 4-1 un peu sympa, parce que les Nuggets ont tout le temps eu de la marge.
Eh bien, avançons, Madiane, avec la deuxième de nos parties. Où en sont-ils dans leur projet? Alors, c'est bizarre de parler de ça avec les Lakers parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais les Lakers, il y a où en sont-ils? Alors, il y a peut-être trois réponses à cette question. Celle en termes de communication où les Lakers diront toujours qu'ils partent pour le titre. C'est déjà sorti. Hein, Dave McMahon d'ESPN a expliqué que le front office considérait que les Lakers étaient, vu ce qu'ils ont proposé, pas loin du titre. Il y a la deuxième version qui est celle de peut-être du front office un peu moins bercé de déni, en tout cas moins dans la com, qui, je pense, estime qu'ils sont dans le deuxième tiers des contenders. Rappelons que les Lakers étaient sixième à Vegas avant le début de la saison, et je crois que c'est pas très très loin de ce qu'ils sont vraiment. Et il y a peut-être la troisième version un peu plus pessimiste qui les voit comme une équipe qui est assez loin ou qui s'éloigne du titre. Est-ce que c'est soit les trois versions du projet Lakers, parce que c'est une franchise tellement à part que oui, les Lakers vont affirmer au prochain training camp qu'ils joueront le titre. Mais est-ce qu'ils le joueront vraiment?
Pour moi, ce n'est pas possible d'avoir une fenêtre de titre ouverte dans les faits. Parce que tout simplement, le problème, c'est que l'écart de ta double tête de pont, LeBron James, Anthony Davis, ben LeBron James, il va forcément être moins bon l'an prochain. Il faut pas se leurrer. Il sera pas meilleur. S'il est aussi bon, c'est déjà un miracle. Et même avec un LeBron James aussi bon autour de lui, il n'y a pas ce qu'il faut pour gagner le titre. Il n'y a pas suffisamment de force en présence. Mais tu ne peux pas ne pas dire ça parce qu'en fait, tu veux garder LeBron James, tu veux garder un projet crédible et tu veux continuer ainsi parce que sinon c'est champ de ruine et tu n'as pas envie de ça. Donc oui, ils vont tenter des choses sur le marché, ils vont tenter de se bouger, mais ça ne suffira pas pour faire de cette équipe un candidat crédible à la victoire NBA.
Rappelons que LeBron, alors on va être honnête aussi, on a un peu modifié la version de ce podcast parce que d'abord on va y revenir, on l'avait enregistré dans sa première version, dans sa première mouture avant l'éviction de Darwin Ham, qui nous simplifie un peu la tâche, et aussi on avait inclus un gros dossier LeBron, mais là il faut un peu en parler Madiane. Ça semble quand même bien parti pour que LeBron reste. Alors certes, il y a une espèce de jeu dupe, on essaie un peu de jouer sur les possibilités que LeBron parte, mais si on allie d'abord le facteur alternative, où est-ce que LeBron pourrait atterrir? Moi, j'ai du mal à voir une équipe qui a d'un côté la flexibilité. Rappelons qu'il a une player option à 51,4 millions à cette intersaison qui peut décider d'activer ou de ne pas activer. Qui a assez de cap space? Qui va s'offrir les services de LeBron dans une équipe contender? Ça semble être la condition sine qua non sur une ou deux saisons sans avoir d'assurance. Visiblement, moi, je serais très étonné qu'ils partent de LA. Je sais pas toi.
Non, je serais aussi très surpris. En fait, c'est compliqué pour LeBron de bouger parce qu'il n'y a aucun projet crédible autour de lui. Et un des indices forts qui quand même indique que LeBron James risque de risquer, il faut se rappeler, c'est que Anthony Davis, il est encore là pour un petit moment. Donc j'ai du mal à le voir avoir fait des pieds et des mains pour le faire venir et le lâcher dans le projet tout seul, avec notamment la re-signature qui a eu lieu. Donc voilà, il signe Anthony Davis son extension. Normalement, enfin, à partir de là, les destins sont scellés ensemble. S'il part, ce serait une énorme surprise et c'est qu'il aurait eu un facteur. Et le départ du coach, bah mine de rien, c'est aussi un indice comme quoi il va rester, parce que moi, j'avais pas spécialement de gros griefs contre Darvin Ham, mais finalement, les joueurs en avaient. Les joueurs en avaient, notamment, ça parlait du comeback face aux Clippers, où visiblement, le fait est que c'est les joueurs qui semblent avoir trouvé la solution en autogestion, et du coup, ils ont un peu lâché la confiance qu'ils avaient en lui à ce moment-là. Bon, peut-être. J'étais pas là pour savoir, mais c'est ce qui sort dans les rapports. Donc, si on sort le coach alors qu'on sait que c'est une décision de joueur de ne plus en vouloir, c'est que on est enclin à continuer avec LeBron James. Et les rumeurs pour le remplaçant au coach des Lakers me laissent à penser quand même qu'il y a peut-être des options qui sont très LeBronesques.
et rappelons, LeBronesque, c'est une très bonne expression. Rappelons que du coup, si LeBron active son option, on signe un contrat, alors le maximum auquel il pourrait prétendre, c'est aux alentours de 50 millions. Les Lakers seraient plus ou moins dans la première apron et voire dans la et flirteraient dangereusement avec la seconde apron. On vous invite à l'écouter les podcasts CBA qu'avait fait Tom avec Amine pour avoir plus de précisions sur le mécanisme. En tout cas, ça limiterait grandement leur faculté de se renforcer cet été. On va en parler parce que les Lakers, il y a toujours cette volonté, velléité de beaucoup se renforcer, notamment à travers des trades de superstars. Bah, si LeBron reste, qu'il active son option ou pas, je pense qu'il va pas l'activer. Visiblement, d'après les infos, notamment de The Athletic, on partirait sur un contrat de 2 ans. LeBron, bah, contrat de 2 ans de LeBron, qui, rappelons, historiquement, laisse très peu d'argent sur la table. LeBron, bah, tu as quasiment plus de marge de manœuvre. Ça devient assez compliqué pour les Lakers en termes de renforcement. On en a un petit peu parlé, Madiane, ouvrons le dossier coach. Darwin Ham n'est plus le coach des Lakers, alors on enregistre ce podcast. Nous avons quelques noms qui circulent, Mike Budenholzer, JJ Redick, Tyronn Lue, mais ça semble compliqué, visiblement, il est vraiment attaché au projet Clippers, Kenny Atkinson. Première problématique, on rappelle, on met toujours en avant ces 3 problématiques. Sur quel coach partir? Sur quel profil de coach est-ce que tu aimerais voir ces Lakers partir?
Alors, dans les noms, celui qui m'a le plus attiré, ce serait peut-être Budenholzer. Parce que je trouve que sa prestation avec les Bucks vieillit comme un très bon vin actuellement. Ouais, il faut le dire, hein, clairement. qu'ils ont besoin d'un coach aussi qui leur permet d'assurer une assise stable, notamment saison régulière. Et je pense que tu peux laisser tes deux stars prendre les choses en main un peu plus en playoff, là où Budenholzer est un peu plus contesté. Et moi, je trouve que ça ferait un bon fit vis-à-vis de ça. C'est chercher un peu de stabilité en saison régulière. Peut-être pas forcément se retrouver à se taper un Denver Nuggets au premier tour où tu sais que d'office, ça va être très, très compliqué. Je pense qu'ils ont besoin de soi. Si les Lakers veulent se frayer un chemin pour faire un run de playoff, il faut faire une bonne saison régulière. Je trouve que c'est le bon coach pour ça. Après avoir avec quel joueur il va la faire. Mais ça me semble bien s'aligner. Après, moi, les autres options, que ce soit Tyronn Lue ou moi, un coach qui était toujours pas éliminé, qui est cité, alors que sa série de playoffs est toujours en cours, je me suis posé d'énormes questions sur qu'est-ce qui se passait en coulisses. Et pareil, que le nom de JJ Redick qui sorte, on sait très bien pour qui c'est ça. Ça me fait un peu peur sur la décision qui va être prise, et on sait que LeBron a un passé difficile avec les coachs, et j'ai peur que la série continue encore à Los Angeles.
Bah, Ty Lue, il y a vraiment, tout le monde en parle, hein, il y a ce respect vraiment. LeBron a déjà dit plus d'une fois que c'était peut-être le meilleur coach avec qui il avait pu exercer. Et c'est vrai qu'en gros, quand il y a cette rumeur Ty Lue, c'est une rumeur qui est un peu aussi poussée par LeBron, on va être honnête, hein, LeBron qui a beaucoup beaucoup de respect pour Ty Lue. Après, visiblement, ça semble difficile parce qu'il est beaucoup attaché au projet Clippers. JJ Redick, alors. Moi, je crois que les rumeurs de JJ Redick sont vraies. Il y a un peu ce jeu sur Twitter en ce moment de se dire est-ce qu'elles sont vraies ou pas.
Je pense qu'elles sont vraies. Hein.
Je pense qu'elles sont vraies. Hein. Je sous-estimerai pas la capacité des franchises de sport américain à nous sortir des noms sortis tout droit incompréhensibles. Les fans de NFL se rappelleront de l'épisode Jeff Saturday à Indianapolis qui était un consultant TV. Ancienne star d'une franchise qui a été débauchée sans expérience de coaching pour faire l'intérim. Donc.
Non, mais dans un article que j'ai pioché en préparant l'épisode, j'ai quand même. C'est non conventionnel, mais c'est un candidat. Pourquoi ? Parce qu'il comprend bien le jeu, qu'il est copain avec LeBron James et que sa transition en analyste, elle est excellente. Donc, ça montre à quel point il comprend le basket. Donc, ça va faire un très bon coach. Et moi, je suis là et je lis ça et je me dis, mais comment ça ? Parce que analyser le jeu, c'est une chose. Coacher une équipe, il y a de la gestion humaine. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Enfin, comprendre le basket ne fait pas de toi un bon coach. Ce n'est pas le cas. Ça ne le sera jamais.
C'est là où, pour moi, c'est mon gros grief vis-à-vis de Darwin Ham, c'est qu'il a été beaucoup salué par une partie de NBA Twitter sur ses schémas tactiques qui sont vrais. Hein, je suis loin d'avoir...
Les solutions qu'il trouve sont bonnes. Hein.
J'ai pas l'œil d'un expert, tu vois, mais je suis d'accord. Le plan de jeu contre Nikola Jokic était extrêmement bon et il a offert des choses sur son passage aux Lakers. Mais tu l'as dit, il y a la gestion humaine. C'est pour ça que le cas Budenholzer, je pense, serait bon. Après, à voir si un Mike Budenholzer a envie de se remettre dans le monde du coaching à Los Angeles, qui va quand même être dans son troisième coach en 3 ans. C'est compliqué d'être coach des Lakers. Donc, à voir. Kenny Atkinson, il y a toujours cette rumeur comme quoi, en gros, le siège aux Warriors lui est promis si jamais quand Kerr part. Donc, je ne sais pas, mais à voir. Faut pas sous-estimer la capacité qu'ont les Lakers à ne plus avoir leur premier choix. Parce que, par exemple, Frank Vogel n'était plus leur premier choix, c'est ressorti encore récemment. Et moi, je me méfierais beaucoup de la piste JJ Redick parce que il y a trop des gens qui ont des bonnes infos sur les Lakers qui commencent à la sortir, cette piste-là. Elle me paraît beaucoup trop suspecte pour pas être...
Et puis, elle sort un peu de nulle part. C'est surtout ça, le sujet. C'est-à-dire que si le nom... Enfin, par exemple, sortir le nom de Mike Budenholzer, c'est facile. Tu regardes qui est coach référencé qui cherche actuellement un banc. Il n'y a pas de milliards de gros coachs qui cherchent actuellement un banc. Bon, sortir Mike Budenholzer, c'est tout à fait cohérent. Sortir JJ Redick, tu le sors pas comme ça. Parce que déjà, faut se dire qu'il a envie de devenir coach, que c'est le moment pour lui, etc. Et ça demande un peu plus de réflexion pour sortir le nom. Donc, que son nom sorte, c'est pas du tout anodin. Comme le fait que le nom de Tyronn Lue soit sorti, c'est pas anodin parce qu'on voit clairement quelles sont les ficelles derrière.
Alors après, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de JJ Redick par rapport au fait de se faire mousser? On a déjà vu, oui, peut-être qu'il y a un jeu d'agent et un jeu de source, mais les mecs qui sortent l'info, je commence vraiment à me dire qu'il y a un truc JJ Redick. Passons. Et aussi le poids que commence à prendre JJ Redick dans le paysage médiatique NBA, ça serait pas fou non plus que ça soit une piste qui soit complètement, qui soit un peu creusée. Enchaînons peut-être par le cœur de l'intersaison des Lakers. Parce que Bobby Marks, je parlais beaucoup d'ESPN, a sorti une take qui m'a beaucoup fait réfléchir. Il a dit donc que D'Angelo Russell contrôlait l'intersaison des Lakers. Alors pourquoi? Là, j'ai besoin de me muer en expert capologie. C'est loin d'être mon fort. Je ne suis pas Tom, je ne suis pas Amin, je ne suis pas Constant. Bref, passons. Les Lakers ont donc, D'Angelo Russell, pardon, a une option joueur à 18,1 millions, qu'il a déjà annoncé décliner. Ce qui est intéressant plutôt là-dedans, c'est pourquoi il y a cette fameuse théorie comme quoi D'Angelo Russell contrôle l'été des Lakers, c'est que si les Lakers partent dans l'optique de vouloir trader D'Angelo Russell, de vouloir trader pour une superstar ou un troisième gros joueur, avoir D'Angelo Russell serait plutôt intéressant pour eux, en fait. Le fait qu'il opt-in et active son option serait assez intéressant parce qu'ils vont manquer de contrats à échanger. En gros, parmi les contrats à échanger actuellement, ils ont Hachimura, Reeves, Vanderbilt et Gabe Vincent. Le contrat de D'Angelo Russell serait automatiquement le troisième plus gros contrat des Lakers s'il venait à opt-in. Il a déjà annoncé qu'il allait opt-out. Et le problème des Lakers, on l'a déjà dit, c'est que dans le vis-à-vis du cap, ils seront déjà très, très, très hauts. Donc, ils auraient peu de solutions de remplacement. Je sais que les fans des Lakers ne veulent plus entendre parler de D'Angelo Russell, mais il n'empêche, c'est une solution. Il y a un monde dans lequel il revient du côté des Lakers parce que d'un côté, les Lakers n'ont pas d'alternative et de l'autre, je suis désolé, moi, le marché de D'Angelo Russell, je n'y crois pas. Les équipes qui ont du cap ne vont pas se positionner sur son profil à lui, je pense. Donc, question, Madiane. Première question, est-ce que c'est le cœur du problème des Lakers, c'est la ligne arrière. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait avec cette ligne arrière après que je t'ai fait tout le paquet cap? Vas-y. J'ai failli t'appeler Amine et j'ai déjà failli t'appeler Tom durant ce même podcast, Madiane. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis fatigué. Vas-y.
En tout cas, oui, il contrôle l'intersaison et en fait, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, s'il opt-out, tu n'as pas meilleure option sur le marché. Il faut arrêter de s'illusionner facilement. Avec quelle capacité financière tu vas aller chercher un autre gros joueur sur le marché qui est meilleur que D'Angelo Russell? Trouvez-moi un nom. Trouvez-moi le nom du joueur qui peut être pris par les Lakers dans leur situation financière. Il n'existe pas. Donc, comme il n'existe pas, ce n'est même pas la peine de discuter. C'est très simple. Si D'Angelo Russell, il est sur le marché, tu le re-signes. Tu n'auras pas mieux ailleurs parce qu'avec D'Angelo Russell, tu peux aller t'amuser à le signer pour plus que le cap et donc, ça n'affecte pas ta capacité à aller le signer parce qu'il est là quand même sur un contrat depuis assez longtemps. Donc, tu peux le garder. Toutes les autres options sont irréalistes et je ne vois pas comment ils vont réussir à se dépatouiller de ça. Ce qui laisse en fait finalement que peu de choix parce qu'il faut quand même parler de cette ligne arrière où D'Angelo Russell, il monte ses limites. Il a été très bon en saison régulière. Je l'attendais en facteur X en playoff en disant « Ils ne seront pas bons s'il n'est pas bon. » Il n'a pas été bon et on a bien vu ce que ça a donné. Donc, il te faut, je pense, une alternative sur les postes arrière, un troisième joueur possiblement pour tourner avec Reeves, notamment sur ces postes-là, et un joueur pas négatif défensivement. Et pour ça, finalement, tu n'as que les contrats de Hachimura, Vincent, Vanderbilt, et après, oui, balancer le contrat de Reeves dans la bataille, voilà. Et tes piques, parce qu'il va falloir des piques pour convaincre. Et là, on rentre dans le basket fiction, je ne vois pas ce que tu vas réussir à avoir. Parce qu'un guard, fort défensivement, qui est dans une équipe pas vraiment contender, ou en tout cas qui veut se débarrasser de lui, je cherche
avec
les noms.
Avec un peu de playmaking, capable de shooter, ils ont besoin de spacing.
Ouais, ils ont besoin de spacing en plus. Mais en fait, trouver un mec capable de défendre et capable de shooter, c'est chercher, c'est chercher la lune en fait. Hein. Donc c'est ça le vrai problème. Je pense qu'ils sont foutus en fait. Ils sont foutus et qu'ils vont devoir un peu changer quelques role players et réussir à pouvoir avoir des rotations un peu plus intéressantes. Mais clairement, je vois pas ce qu'ils auront de mieux. Donc si ce scénario se confirme, ben t'es obligé de re-signer Russell et puis de changer autour en espérant que ça passe un peu mieux. Mais tu vas pas améliorer grandement cette équipe. Hein.
Ouais, ils vont peut-être rester ensemble par dépit, parce que aussi, il faut le dire que D'Angelo Russell, malgré toutes les critiques qu'il reçoit sur ses contre-performances qui sont légitimes en play-off, ça reste un très bon joueur de saison régulière dans ce qu'il peut apporter. On va basculer sur ça dans quelques secondes. Je dirais juste que si on parle de l'optique de trade, parce que c'est déjà évoqué par les insiders des Lakers, etc., Trae Young, Donovan Mitchell, je ne sais pas. Alors, première chose, avec quoi? Tu l'as déjà dit. Sachant qu'il y a un paquet d'équipes qui auraient des offres plus impressionnantes que celles des Lakers. Deuxième chose, ce qu'il leur faut actuellement, t'as déjà commencé un peu à faire le portrait robot, ça serait donc un joueur capable d'assurer un peu de playmaking, défenseur sur le point of attack, parce que c'est Austin Reeves s'est tapé le point of attack pendant une partie des playoffs et c'est pas possible. Il leur faut un joueur aussi capable de jouer off, parce que on va dire que le poids qu'a LeBron dans l'attaque a tendance à varier et à augmenter en play-off. C'est un profil. En fait, moi, ironiquement, dans la première version du podcast, j'avais dit qu'ils avaient besoin de Lonzo, le Lonzo des Bulls. Le premier, pas celui qu'on n'a pas vu depuis 2 ans, mais ils avaient besoin du premier Lonzo des Bulls. Et c'est, alors d'abord, c'est un joueur qu'ils ne peuvent pas attirer sur le marché parce qu'ils n'ont pas la place. Et c'est un joueur qui, en trade, aurait énormément de valeur, théorique. Donc, je suis un peu circonspect. Après, est-ce que la solution, c'est aller chercher un Dejounte Murray? Il y avait eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça.
Il faut l'avoir joué, là, récemment. Ça pose des questions. Hein. C'est les versions de Dejounte Murray. On ne sait pas laquelle.
C'est ça, laquelle. Laquelle tu trades pour laquelle? Parce que si tu trades pour celle d'Atlanta qui défend Peanuts, tu ne vas pas régler des problèmes. Après, si tu trades pour la première version des Spurs, ça peut se défendre, mais tu ne réponds pas aux soucis de spacing, par exemple. Et... Bref. Et aux notions de qualité athlétique, je reviendrai juste là-dessus avant de te lancer. Je parle beaucoup trop, Madiane. Les Lakers, il y a un déficit athlétique trop important et on va y revenir. Enchaînons avec la nécessité de trouver un équilibre entre saison régulière et play-off. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là, Madiane?
En fait, il faut regarder un peu la jeunesse de ces Lakers et refaire le fil. Quand ils gagnent leur titre dans la bulle, c'est magnifique, tout le monde est content. Mais ils le font avec qui? Ils le font avec Dwight, KCP, Caruso. C'est des joueurs qui ont montré une énorme utilité de playoff. Et quand ils font leur move en faisant venir Montrezl Harrell et Dennis Schroeder, je me souviens que tout le monde a un peu haussé un sourcil en disant « Alors, tu vas être plus fort en saison régulière, certes, mais c'est des joueurs qui ont montré leurs limites en play-off. » Bim, badaboum, la prophétie s'est retrouvée très vraie. Qui aurait pu penser que deux gars dans leur chambre auraient pu mieux analyser la situation que le général manager des Lakers, dont il faut parler parce que le travail, je trouvais scandaleux depuis la bulle. Non, parce qu'il y a un moment, comment tu gardes ton poste après avoir saboté quand même les dernières années de LeBron James accompagné d'Anthony Davis? Enfin, pour moi, il y a crime. Là, tu prends le trade Westbrook, pareil, tout le monde lève un sourcil, ça marche pas. Qui est étonné? Personne. Et puis là, t'es reparti sur une version où tu réussis quand même à retomber sur tes pattes en récupérant D'Angelo Russell, mais c'est une force de saison régulière. Le truc, c'est que c'est même pas assez bon actuellement pour réussir à éviter le play-in en saison régulière et à ne pas tomber sur des mauvais seeds. Et je pense que c'est pour ça que je parlais de Budenholzer. La réussite de Saker, c'est essayer de ménager un peu quand même LeBron James et Anthony Davis, parce que la saison d'Anthony Davis cette année, c'est un miracle. C'est jamais arrivé depuis genre tellement longtemps qu'il joue autant de matchs, qu'il arrive en playoff en forme et il claque des playoffs très sérieux, Anthony Davis. Très bon sur ses playoffs. Mais le truc, c'est que il faut pas passer par l'usage à outrance de LeBron James. Il y a encore énormément joué cette année. Si tu veux avoir un petit espoir, il faut qu'il soit OK. Donc, il te faut une équipe qui tienne suffisamment la route en saison régulière avec très peu de joueurs négatifs en playoff. Et là, quand tu regardes dans l'effectif, je me souviens que je t'avais un peu choqué, mais pour moi, ne sont pas des joueurs de playoff actuellement dans cet effectif. Russell, Hachimura, Prince, Wood. Enfin,
je te trouve dur avec Rui Hachimura. Il peut être, ça peut être le sixième, septième joueur d'une rotation de playoff.
Ok, ok, très bien. C'est vrai que c'est un peu dur. Je rappelle qu'il touche 17 millions. Je trouve qu'il y a des joueurs à 17 millions qui ont plus d'impact dans les rotations NBA.
Après, moi, je trouve, tu vois,
la valeur contrat et la valeur terrain.
Bah, t'as parlé de Rob Pelinka. Moi, je trouve que ce qui leur pose problème, c'est en fait, ils ont deux problèmes. Comme beaucoup des équipes de LeBron, il y a une instabilité chronique qui fait que, alors que bizarrement, il y avait l'assise contractuelle cette fois-ci, c'était pas une situation à la Cleveland où chaque année de briques et de broc, ils essayent de trouver des role-players. Je t'avais donné cette stat. Moi, cette stat, j'ai trouvé effarante. Depuis l'arrivée d'Anthony Davis, les Lakers ont que 4 joueurs de leur effectif qui ont enregistré plus de 4000 minutes en saison régulière. 4. Anthony Davis, LeBron James, Austin Reeves, Russell Westbrook. C'est la seule équipe qui a aussi peu de joueurs à plus de 4000 minutes en saison régulière sur la période. Le minimum après, c'est 5 et beaucoup des contenders sont à 7, 8 sur les dernières années. Quand je parle de Boston, quand on parle des Clippers, même les Bucks qui ont un plus petit nombre, 6, bah les 6, c'est Giannis, Brook Lopez, Jrue Holiday, Chris Middleton, Bobby Portis, Pat Connaughton. Tu vois, ce cœur de joueurs, les Lakers n'ont jamais été en capacité de le répéter, d'avoir un espèce de même, d'une continuité parmi leurs role-players. Et moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup, tu l'as dit. Ils sont dans cet équilibre où il faut trouver un moyen d'être bon en saison régulière tout en ménageant LeBron, mais ensuite, réussir à offrir à LeBron et Anthony Davis la possibilité d'augmenter leur contribution en play-off. C'est trop compliqué comme équilibre, ça. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des joueurs capables d'être viables en saison régulière et en play-off et capables de changer de rôle, ou en tout cas diminution de rôle, tout en étant efficaces entre le basket de play-off et le basket de saison régulière. C'est très, très difficile ce qu'on demande aux role-players des Lakers en réalité, dans cette adaptation-là. Donc, moi, je suis un petit peu pessimiste et je trouve que dans cet équilibre-là, les Lakers sont en train un peu de se perdre.
Mais parce que c'est impossible comme équilibre. C'est que tu as une équation, tu es en train de me dire que tu veux monter ce qu'il y a sur ta colonne de gauche sans pour autant faire bouger ce qu'il y a dans ta colonne de droite. Mais en fait, c'est impossible. Tu es en train de me demander un truc qui mathématiquement ne marche pas. Et en fait, c'est là où je trouve qu'il y a des reproches, c'est qu'ils avaient ces gars-là. Ils les avaient à un moment. Eh ben oui, mais une fois que tu les laisses partir, tu les récupères plus. C'est aussi simple que ça. Quand tu as les valeurs contrat, quand tu as une instabilité chronique, le problème, c'est que les gars qui sont intéressants contractuellement, avec une valeur terrain supérieure à la valeur contrat, eh ben une fois que tu les as laissés partir, tu ne peux pas les prolonger. Ce qu'il y a sur le marché, c'est jamais meilleur que ce que tu as chez toi, parce que avec tes deux stars, t'es déjà très limité dans ta marge de manœuvre financière. Et c'est pour ça que cette équation ne marche pas. Et en fait, rester en instabilité chronique quand tu as déjà la base de ton projet qui est scellé LeBron James, Anthony Davis, c'est une connerie. C'est une connerie parce que derrière, chaque intersaison, tu te retrouves à aller rechercher dans tes contrats ce que tu n'as plus. Est-ce que quelqu'un me fera croire que vraiment Caruso, il pourrait pas jouer dans ces Lakers?
Bah, c'est un peu le problème aussi de leur manière de fonctionner ces dernières années, être beaucoup dans la recherche de paris à chaque intersaison. Et c'est là où, pour moi, on est en désaccord là-dessus, mais l'intersaison dernière les tue, parce que l'intersaison dernière, c'était une intersaison de continuité, de stabilité pour les Lakers. On a fait une finale de conf, on va re-signer Hachimura, on va conforter Austin Reeves dans sa prise de position, de prise de pouvoir, entre guillemets, en tout cas dans son rôle de troisième joueur. On va continuer avec D'Angelo Russell. Enfin bref, il y a cette notion de stabilité avec l'ajout de Gabe Vincent. Et là où ils se tuent, pour moi, les Lakers, c'est que ils sont pas complètement à blâmer, hein, mais D'Angelo Russell est une déception. Austin Reeves fait un début de saison, fait pas une saison très, très, vraiment ouf. Vanderbilt est blessé la plupart de la saison. Hachimura fait des playoffs plus que moyens. En fait, tous leurs role-players qui devaient supplier le duo sont pas au rendez-vous. C'est ça le problème de ces Lakers dans leur construction, on l'a dit. Bah, ça arrive quand tu es, t'as beaucoup de variance d'année en année. Pour une fois qu'ils avaient pas de variance, et oui, ils ont certes fait les paris, Jackson Hayes, Cam Reddish, etc., qui ont tous plus ou moins échoué. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Enchaînons. Mais... Vas-y.
Non, mais justement, c'est ça qui leur a manqué. C'est finalement ce qui avait motivé à signer Rui Hachimura, c'est que tu as eu tes 2-3 Rui Hachimura game dans tes playoffs. Là, il n'y a pas eu ça. Il n'y a eu aucun role player qui a eu son game sur ses playoffs. Et c'est ça qu'on demande à un role player, c'est qu'il peut être très discret en playoffs, mais que bah il y a le jour où il sera bien, et bah, le jour où il sera bien, bah, c'est son game et on lui laissera la main. Et ça n'a pas du tout marché, pas du tout, du tout. Et c'est ça, c'est ce qui manque hein, dans la série face aux Nuggets, c'est que t'as aucun moment, t'as quelqu'un qui vient aider le duo, donc ça finit par couler.
En terminant par les sous-dossiers, Madiane, d'abord, moi, je voulais parler des questions de qualité athlétique, je ferai très rapide. Quand on voit la dimension physique des Wolves face aux Nuggets, alors que ces mêmes Nuggets ont malmené les Lakers, moi, ça m'inquiète beaucoup sur la ligne arrière, je l'avais déjà un peu mentionné. Dans une conférence où t'as Anthony Edwards, le nouveau Michael Jordan, j'ai dit ça exprès pour Constant pour l'énerver quand il va écouter cet épisode. quand t'as SDA, quand t'as quand même des arrières à l'ouest.
Jamorant,
tu peux pas avoir Austin Reeves sur le point of attack et D'Angelo Russell. Et globalement, il y a un manque de qualité athlétique.
Mais c'est pour ça qu'il faut un troisième qui est fictif. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Enfin, c'est impossible. Tu ne survis à personne avec ça. Soyons honnêtes, même Jamal Murray, ça a été un énorme problème par moment. Mm-hmm. Et pourtant, il fait pas une si extraordinaire série que ça. Hein, Jamal Murray, il met les gros tirs, mais elle est pas extraordinaire sa série. Mais qui peut le stopper? C'est vraiment ça, c'est le titre de la fouine. Qui peut le stopper? Personne pouvait le stopper. Et c'est ça le problème, c'est que t'as personne capable de faire le gros stop sur les lignes arrière dans une ligue où il y a des gros arrières qui sont là. Et même un Kyrie Irving, quand on voit ce qu'il fait, qui l'arrête? C'est un vrai problème. À l'intérieur, t'as des grosses forces. Sur les ailes, ça se défend quand même. Mais le poste de guard, il est sinistré en termes de défense. Et ça, c'est devenu impossible. Il y a combien d'années? Il y a 5-6 années, j'aurais pas dit ça. Et à 5-6 années, c'était moins grave. Mais là, c'est pas possible. C'est vraiment plus possible.
Enchaînons peut-être avec un deuxième sous-dossier. Tiens, c'est celui du backup pivot. Alors, je vais te faire un quiz. Je déteste les quiz, mais on va le faire pour tout le monde. Pour tout le monde, attention. En excluant Anthony Davis et LeBron James, qui sont les trois pivots, d'après StatHead, hein, qui n'est pas toujours parfait dans la manière dont ils vont comptabiliser les minutes, passons, qui sont les trois pivots qui ont le plus joué aux Lakers en termes de minutes dans l'ère Anthony Davis, LeBron James. Donc, on exclut
Dwight.
Davis. Dwight est le pivot qui a le plus joué, ouais, qui est numéro 2. Son nom a été cité dans le podcast. Par rapport à une signature peu qui nous avait
pas Montrezl Harrell.
Montrezl Harrell et numéro
oh mon Dieu.
numéro 3 Jamal McGee.
Et j'ai failli dire McGee, donc oui je me souviens de ça.
Il y a un gros problème au poste de backup pivot. En fait,
évidemment qu'il y a un problème. Pourquoi tu fais signer Jackson Hayes? C'est que t'as un problème et que du coup tu tentes des signatures désespérées, parce que là faut être désespéré hein, pour tenter cette signature. Donc tu tentes des signatures désespérées parce que t'as un problème. Mais qui tu vas prendre? C'est ça le problème. C'est qui est dispo, backup pivot? C'est pareil, c'est des choses. Je suis désolé, il faut pas les improviser à chaque intersaison. Ton backup pivot, c'est quelque chose qui est important. Aucune équipe de playoff ne peut être sérieuse sans qu'il y ait un backup pivot, au moins des minutes solides au poste de pivot tout le long des séries. Bah, t'as personne et t'auras personne sur le marché. Hein.
Bah, surtout que je pense que ces playoffs, c'est un peu la fête, la gloire au backup pivot entre Isaiah Hartenstein, j'ai pas réussi à le dire, et Nasrid.
Hartenstein.
J'ai pas fait LV2. Moi, j'ai fait LV2 espagnol, j'ai tout oublié. Bref. Tu vois, c'est un peu la fête au backup pivot. Et les Lakers n'ont pas de backup pivot. Je suis désolé, on va parler de moi comme d'une groupie, mais Dwight Howard est le meilleur pivot des Lakers de cette période, en fait. Et c'est Dwight Howard post-prime. Hein. Il est cramé, hein, Madiane, soyons honnêtes.
Non, mais il est cramé, mais il est honnête. Il est honnête, il est utile. Hein. Dwight Howard, il m'a laissé une très bonne impression chez les Lakers. C'était très utile. Enfin, vraiment, il a donné un coup de main. Et c'est pour ça. Alors oui, c'était la fin au moment où il fait sa saison aux Lakers. Voilà, il y a 34 ans. Mais regarde à quel point Les mecs, ils savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font 2 ans après? Ils le font revenir parce qu'ils l'ont laissé partir et ils se disent « Ah ouais, mais c'est vrai qu'il faut pas backup pivot et peut-être que Montrezl Harrell, c'était pas une bonne idée finalement. Hey, Dwight, tu veux pas revenir ?» Enfin, vraiment, c'est pas sérieux. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est que les mecs, ils ont tellement pas d'idées, tellement ils ont fait n'importe quoi après le titre que enfin, vraiment, je trouve que la construction, elle est foutue. C'est foutu et c'est mort et enterré.
Bah, en fait, c'est ce fameux équilibre entre maximisation des playoffs, parce que oui, maximisation d'Anthony Davis, il est probablement pivot. Mais le truc, c'est qu'il faut une vraie option sur les minutes sans Anthony Davis, où ils se font ouvrir, globalement, très souvent, parce qu'il n'y a pas d'option, en fait. Et parce qu'on pense à maximiser l'opportunité maximum, quitte à délaisser d'autres choses. Parce que je suis désolé, moi, quand tu regardes certains des contrats qui ont été donnés sur les Lakers, la dernière intersaison, qui pour moi est vraiment une bascule, il y a peut-être eu trop c'est bizarre qu'on dise ça à Duncan Doe, alors qu'on en parle souvent, peut-être trop d'investissement sur les ailiers au détriment de ce poste qui pose problème aux Lakers depuis pas mal d'années. Dernier dossier, Madiane, et tout le monde va me flinguer dans la conversation de Duncan Doe, parce qu'on aura l'épisode le plus long, j'assume. La vision à long terme de la franchise. J'ai voulu mettre ça, Madiane, parce que ils sont où les Lakers à 4-5 ans?
Mais ça, c'est un vrai sujet. Tu fais bien de l'amener parce que le problème, c'est que LeBron James, allez, il fait 2 saisons. Dans ces 2 saisons, il sera moins bon à chaque fois. Donc, moi, je pense que tu ne feras pas les playoffs. À un moment, tu ne feras pas les playoffs sous ce format-là. Ce n'est pas possible. Si LeBron James n'est pas au niveau de cette année, c'était déjà ric-rac. Donc, je ne vois pas comment tu t'en sors. Donc, tu ne vas pas faire les playoffs, mais tu auras un contrat à long terme, Anthony Davis. Donc, je pense qu'en fait, le projet des Lakers, c'est peut-être de pas trop commit sur les picks. Tant pis pour l'argent, ils s'en foutent, c'est les Lakers. Mais du coup, de pas commit trop sur tes picks parce qu'en fait, dans 2 ans, le projet est fini. Et je pense que tu trades Anthony Davis et tu repars sur autre chose. Parce que Anthony Davis tout seul dans ce projet n'a littéralement aucun sens. Et LeBron James a 41 ans dans ce projet. Tu vas pas aller en playoff, hein, faut pas se mentir. Et à moins qu'il y ait un miracle, et qu'en hypothéquant tout le futur de ta franchise, tu réussisses à récupérer un fort 3e meilleur joueur qu'on aura bien voulu te laisser, mais qui tu vas ramener... Enfin, tu vas hypothéquer tout le futur de ta franchise. Après, ce serait très Lakers de faire ça, parce que les Lakers, ils s'en foutent de reconstruire. C'est pas une équipe pour reconstruire. On a bien vu... Finalement, les Lakers, ils ont drafté plein d'années, puis LeBron James est arrivé, ils ont fait « Bon, les petits jeunes, c'était très sympa, bonne chance pour la suite, on prend Anthony Davis. » Ils ont viré tout le monde. Ils avaient Lonzo, ils avaient Ingram, et ils avaient D'Angelo Russell, et ils ont viré tout le monde. Donc,
En termes d'assets, tu vois, on a parlé des joueurs, rappelons qu'en termes de pick, alors il y a le choix des Pelicans qui vont devoir faire un choix s'ils prennent le pick des Lakers cette année ou l'année d'après. Ce qui veut dire que théoriquement, si les Lakers... choix assez, assez compliqué, ils en avaient parlé, Adrien et Constant, dans le post-mortem Pels. Ce qui veut dire qu'en termes de pick, les Lakers pourraient trader 2024 ou 2025, dépendant de ce qui va se passer du côté des Pels, 2029 et 2031. Moi, alors je suis désolé, ça paraît un peu kamikaze, moi je suis les Lakers, je pourrais me laisser tenter parce que je trouve que les picks des Lakers ont peu de valeur sur le temps long. Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste les Lakers. Si LeBron part, si AD part, à une free agency, ils peuvent aller surpayer des mecs qui voudront bien aller jouer à Los Angeles chez les Lakers pour le glamour et faire ce que font certaines équipes, c'est-à-dire devoir des choix à d'autres équipes, mais du coup être dans une espèce de préservation en se disant on va pas être trop mauvais parce qu'on n'a pas nos choix, et les Lakers peuvent faire ça mieux que n'importe qui parce qu'ils ont un pouvoir d'attraction qui est supérieur à presque toutes les franchises NBA. Donc,
et moi, puis après ils peuvent tenter l'arnaque qu'ils avaient réussi à faire, je tiens à rappeler cette période quand ils draftent D'Angelo Russell, Ingram, etc., ils étaient pas censés avoir leur pick à la base. C'est juste que dans la tête de personne c'était possible que les Lakers soient top 3 plusieurs années de suite, et ils ont arnaqué leur pick de draft. Ils n'étaient pas censés être en aptitude de drafter. Donc, je pense qu'avec une protection un peu comme ça, top 3-35, pour te couvrir dans le pire des pires des scénarios où t'as jamais, t'as fait venir personne, mais de toute façon, qui tu développes à Los Angeles? Quel joueur a été vraiment drafté à Los Angeles? Les mecs, ils ont drafté Ingram, Russell, Randle, il y avait Larry Nance, ils ont drafté des Lonzo, ils ont drafté des joueurs de qualité, hein. C'est pas des mauvais joueurs dont on parle. Lequel a explosé à Los Angeles?
C'est la grande question. Et c'est un peu un jour, faudra faire le bilan, parce que la retraite va arriver un jour, on fera le bilan de LeBron. Pour moi, c'est un peu le point noir de sa carrière, c'est cette incapacité à créer un espèce de une deuxième génération qui lui survit dans les franchises dans lesquelles il a été, parce que il n'y a aucun rôle. Le seul développement de role player +++, c'est Austin Reeves, en fait, dans cette timeline là des Lakers. C'est ultra problématique
que Caruso mais qui part.
Et Caruso qui part. C'est quand même problématique de ne pas réussir à développer des role-players, parce que des jeunes role-players, tu les gardes plusieurs années, ils te permettent d'avoir une flexibilité que n'ont pas les Lakers actuellement.
Après, quand LeBron revient à Cleveland, oui, Kyrie est plus fort, mais il a pris une autre dimension avec LeBron. Ça, je lui enlèverai pas. Kyrie LeBron, mine de rien, moi, j'en veux quand même un peu à Kyrie, mais bon, on voit bien ce qu'il fait et ce qu'il a fait ensuite. C'est quelqu'un de très instable. Mais ce qu'il a fait à ce moment-là, alors que LeBron avait vraiment tout fait pour le mettre en avant, et vraiment à Cleveland, je peux pas lui reprocher de pas avoir essayé avec Kyrie Irving. Ça a été plus dur pour Kevin Love dans le trio, mais pour Kyrie Irving, LeBron, il avait tout fait comme il fallait.
Eh bien, terminons là-dessus. Nadia, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On vous lit, alors c'est parfois un peu compliqué. J'étais personnellement en vacances, je tiens à vous dire. J'étais en vacances jusqu'à ce que Kendrick Lamar et Drake décident de se mettre dessus. Et du coup, je me suis reconnecté par Internet et j'ai vécu un moment extraordinaire dans l'histoire du rap. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, on vous lit et on essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Je me permets de terminer là-dessus aussi. On l'a annoncé sur Twitter, petite nouvelle au sein du podcast. Gabin a décidé de quitter l'équipe. On lui fait un grand salut s'il nous écoute. Gabin qui avait plus trop le temps, un peu moins de motivation par rapport au podcast, donc on le salue. On est un peu triste pour lui parce que pendant ces 2 ans dans le podcast, les Raptors ont pratiquement rien fait. Le pauvre, il a même pas pu faire une preview de playoff avec ses Raptors. En tout cas, on lui souhaite bonne chance pour la suite. On va surveiller son parcours de très très près. Donc voilà, c'était la petite info. Je tenais aussi à le dire dans le podcast. Je m'étais mis d'accord avec Gabin pour le dire seulement sur Twitter, mais je ne vous écoute pas. Voilà, donc je vais aussi le faire dans le podcast. En tout cas, je termine rapidement parce qu'autrement, on s'approche beaucoup trop des 50 minutes. Merci, Madiane. Comme d'habitude, suivez-nous sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre 5 étoiles. Les post-mortem vont continuer à sortir. Vous allez en avoir très rapidement un avec Tom et Amine sur le Magic et aussi peut-être les Sixers de tête. On va être très honnête, ils enregistrent en même temps que nous, mais je ne suis plus sûr sur quoi. Donc l'organisation en ce moment est extraordinaire. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut.
Tchuss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.